Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Avec Emmanuel Macron dans ce budget, ce sont toujours les mêmes qui vont payer.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
C'est l'heure de votre rendez-vous avec la vie politique en France. Voici Dimanche politique.
Philippe Le Caplin.
Avec Romain Ouzoui, ce que disent les uns les autres, nous décrypterons cette parole politique avec vous, Frédéric Dabi. Bonsoir.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver, vous êtes le directeur général adjoint de l'IFOP. Les deux Français enlevés au Bénin et libérés au Burkina ont passé leur première nuit chez eux après être arrivés hier en fin d'après-midi à Paris. Question, fallait-il que le président de la République, flanqué de la ministre des Armées et du chef d'état-major, les accueille au pied de l'avion de la République française, sachant que pour les libérer, deux commandos des forces spéciales ont sacrifié leur vie. Cette question fait polémique quand on écoute la droite et l'extrême droite, Romain.
Oui, la preuve avec Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National, invitée de BFM Politique ce dimanche.
Je crois que le président de la République n'aurait pas dû aller accueillir ces otages. Il ne s'agit pas d'ailleurs de clouer au pilori obligatoirement ces deux otages qui ont fait preuve incontestablement d'inconscience qu'ils ont reconnu eux-mêmes. Mais de fait, le président de la République n'avait pas à les accueillir un petit peu comme des héros. Je pense que l'intégralité des hommages, en réalité, aurait dû être réservée à ces deux militaires d'élite qui ont donné leur vie, pas pour rien.
Voilà, pas pour rien. Et d'ailleurs, un hommage national leur sera rendu mardi prochain à Paris. La réponse du parti présidentiel au propos de Marine Le Pen, l'heure n'est pas à la polémique, affirme Nathalie Loiseau, tête de liste de La République En Marche aux élections européennes.
Moi, je suis d'abord dans le recueillement pour les deux militaires français qui ont donné leur vie pour sauver la vie de deux autres Français. Ils sont morts au champ d'honneur, ils sont morts dans leur mission, et je pense que l'heure est au recueillement, certainement pas à la polémique. Les deux otages libérés ont dit leur regret, ont dit leur imprudence. Mmh. Ils vont vivre ça avec ça toute leur vie. Je crois que ça suffit.
Voilà, pas de fausse polémique donc sur l'accueil des deux ex-otages, affirme Nathalie Loiseau, invitée ce dimanche du grand jury RTL, le LCI, Le Figaro. Autre tête de liste aux européennes, l'écologiste Yannick Jadot va plus loin, dénonçant un déferlement de haine. On est à côté de la plaque, dit-il. Yannick Jadot.
Qu'on arrête un peu cette petite musique qui vise à culpabiliser les deux otages. S'ils sont entrés dans ce parc, que ça n'était pas une zone rouge, franchement, il n'y a pas de raison de les culpabiliser de la mort de deux soldats qui sont venus les sauver. Et je dois dire que je vois en plus sur les réseaux sociaux une forme de déferlement de haine vis-à-vis de ces otages, y compris parce qu'elles sont homosexuelles. Là, je me dis qu'on est complètement à côté de la plaque.
Yannick Jadot, tête de liste Europe Écologie Les Verts aux élections européennes et invité de Dimanche en politique sur France 3.
Et qui sera l'invité de Mardi politique sur Radio France Internationale. Ce sera donc bien évidemment mardi soir. Alors, Frédéric Dabi de l'IFOP, est-ce qu'on a là une polémique dans un verre d'eau ?
Oui, je le pense. Je pense qu'on est sur un registre politicien d'exploitation d'un fait, sur un sujet qui est un sujet des questions des otages, des questions plus largement de politique extérieure qui suscite un très fort consensus de la part des Français. En étant prudent, je pense que la polémique va s'éteindre d'elle-même, notamment lors de l'hommage mardi, puisque ça imprimera infiniment moins que l'émotion suscitée par la mort des deux soldats.
Plus largement, quel est le rapport des Français à leur armée ?
L'armée bénéficie d'une image excellentissime auprès des Français, qu'on pose une question de bonne opinion, de confiance. Il y a clairement un effet sentinelle, c'est-à-dire la présence physique de l'armée dans les grandes villes, et pas seulement, a créé de la proximité, le sentiment que l'armée est vraiment présente et vivante dans la nation. Et quand on interroge sur l'image des forces de l'ordre, il y a une sorte de continuum. L'image est globalement excellente, mais il y a d'abord l'armée et les soldats, puis les gendarmes, et puis un peu en dessous, les forces de police.
Alors justement, la police, dont l'image est dégradée avec les violences commises par certains lors des manifestations de Gilets jaunes.
Je ne parlerai pas d'image dégradée, au contraire, disons que les Français opèrent une sorte de dissociation entre les bavures policières et les violences qu'ils remarquent, qu'ils condamnent pour la plupart d'entre eux, mais ça n'entache en rien la très bonne image, la confiance dont bénéficient les forces de l'ordre. J'ai parlé d'effet sentinelle pour les soldats, il y a clairement eu un effet 2015, un effet Charlie, Clarisse Agent-Philippe et hyper cachère pour les forces de police. Il y a un vrai attachement des Français et c'est une question qui par le passé suscitait un très fort clivage gauche-droite qui s'est très très fortement atténué, voire il a disparu.
Ce soir à minuit commencera la campagne officielle pour les élections européennes qui auront lieu dans précisément deux semaines, avec pour la France la désignation de 74 députés. 34 listes vont se disputer ces sièges, car depuis le dernier dimanche politique sur RFI, une nouvelle liste a été validée. Alors la semaine prochaine, chaque grand parti tiendra un meeting. Après-demain, la France Insoumise réunira ses partisans à Besançon. Mercredi, les socialistes tiendront un banquet républicain à Rouen. Jeudi, La République En Marche avec Nathalie Loiseau se réunira à Cergy. Et à la même heure, Marine Le Pen sera avec Jordan Bardella à Fessenheim, avant que vendredi, Laurent Wauquiez assiste François-Xavier Bellamy à Bordeaux. Autant dire qu'enfin, il sera question des élections européennes cette semaine. Pas étonnant, Romain, qu'aujourd'hui les ténors s'expriment sur les plateaux de télévision et dans les studios de radio.
Oui, pas moins de 8 têtes de liste invitées ce dimanche dans les médias. Alors, il n'y a pas eu d'échange direct entre les candidats, mais des interpellations. Comme par exemple quand Manon Aubry, tête de liste La France Insoumise, a dénoncé le programme écologique du Vert, Yannick Jadot.
Nous ne sommes pas en faveur d'une écologie qui est punitive. Par exemple, Yannick Jadot était en faveur de la taxe carbone au moment, on se souvient, au début de la mobilisation des Gilets jaunes. Et nous pensons qu'il ne faut pas prendre dans la poche des classes populaires sans leur offrir d'alternative. Elles taxaient en plus grande proportion les ménages les plus pauvres, puisque c'est eux qui prennent le plus la voiture sans avoir d'alternative. Donc nous pensons que écologie et sociale sont les deux faces d'une même pièce, et c'est un exemple concret.
Manon Aubry ce dimanche sur France Inter. Alors quasiment au même moment, Yannick Jadot, lui, se trouvait sur le plateau de France 3, et face aux critiques, il a presque sacralisé le programme écologique de son parti et l'enjeu des élections européennes.
Pour nous, cette élection européenne, c'est le vote du siècle. On a vu depuis 5 ans l'Europe se disloquer. Nous, on poursuit la mission d'Europe Écologie, sauver l'Europe pour sauver le climat. On veut mettre le climat comme loi fondamentale de l'Europe. Nous sommes les seuls.
Yannick Jadot, donc, qui défend la spécificité de son programme écologique. Alors, les idées qui sont souvent relayées au second plan derrière cette question, qui, en tête, à l'issue du scrutin du 26 mai, le bras de fer est annoncé entre La République En Marche et le Rassemblement National. Ce dernier qui renaît de ses cendres pour gagner, affirmait à la mi-journée la présidente du Rassemblement National, Marine Le Pen, sur BFM TV.
Vous avez participé, mais vous n'étiez pas le seul, faut bien le dire, à tous ceux qui nous avaient enterrés il y a un an. Nous étions morts. D'ailleurs, il y a un an, dans les sondages, nous étions donnés à 13% et La République En Marche à 28%. Aujourd'hui, nous sommes le premier parti de France. Nous allons donc, évidemment, nous opposer pour gagner les futures élections, les gagner toutes si nous pouvons, les municipales, les régionales, les départementales, et bien entendu, l'objectif est d'arriver au pouvoir pour appliquer nos idées.
Alors évidemment, le duel annoncé entre le Rassemblement National de Marine Le Pen et La République En Marche exaspère les autres partis. Rien n'est joué, rappelle François Xavier Bellamy, tête de liste du Parti Les Républicains et invité de Questions Politiques sur France Inter.
Monsieur Bellamy, il veut se protéger de l'Europe. Il a peur de l'Europe et puis il nous dit qu'il veut changer l'Europe alors qu'il est dans un parti.
Celui-là. Donc là, on entendait Nathalie Loiseau qui répondait justement à François Xavier Bellamy justement sur cette question de l'enjeu des élections européennes. On va écouter François Xavier Bellamy, donc qui rappelle que rien n'est joué pour ce scrutin du 26 mai. François Xavier Bellamy sur France Inter ce dimanche.
Ce qui me paraît décisif, c'est de réussir à casser en effet ce faux débat entre populistes et progressistes qu'on voudrait nous imposer. Ce faux débat, aujourd'hui, seuls 20% des Français s'y reconnaissent, si on veut écouter les sondeurs. C'est-à-dire 20% de ceux qui disent vouloir voter à l'élection européenne se prononcent pour Marine Le Pen, 20% pour Monsieur Macron. Et aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que c'est le grand clivage. Non, c'est faux. Il y a 80% des Français qui ne se reconnaissent pas dans ce clivage-là. Et c'est à ces 80% de Français que je voudrais parler de cette vision de l'Europe dont on a besoin.
Voilà, donc 80% des Français qui ne seraient tentés, selon François-Xavier Bellamy, ni par le vote La République En Marche, ni par le vote en faveur du Rassemblement National, donc les deux listes qui sont annoncées pourtant en tête à l'issue des européennes. François-Xavier Bellamy tente de tirer son épingle du jeu. Nathalie Loiseau lui répond, la tête de liste La République En Marche ce dimanche.
Monsieur Bellamy, il veut se protéger de l'Europe. Il a peur de l'Europe et puis il nous dit qu'il veut changer l'Europe alors qu'il est dans un parti qui a tous les leviers, tous les pouvoirs au Parlement européen, à la Commission européenne, et même le président du Conseil est de sa famille politique. Et là, il se réveille en nous disant il faut tout changer, alors qu'il est de la famille du statu quo européen.
Voilà, la famille du PPE, le Parti Populaire Européen, à laquelle appartiennent les Républicains.
Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Il y a Euro-Rolling, c'est un sondage en temps réel pour Paris Match, notamment. 500 personnes interrogées quotidiennement par IFOP Fiducial. Qu'est-ce que cela permet de pointer? Une incertitude ?
Oui, très clairement, c'est le terme, hein, une incertitude jamais vue dans l'histoire des élections européennes s'agissant de l'ordre d'arrivée, hein, avec une sorte de reproduction du schéma présidentiel. La semaine dernière, nous avions le Rassemblement national en tête d'un demi-point. Cette semaine, La République en marche d'un point. On est vraiment dans la marge d'erreur. Alors, il y a des vrais enjeux. C'est d'abord la mobilisation des électorats présidentiels, la mobilisation des personnes qui souhaitent s'abstenir. Et quand on voit ces indicateurs-là, il y a peut-être un petit avantage ou une prime pour le Rassemblement national. Nous sommes vraiment sur quelque chose, je le répète, jamais vu. Hein. En 2014, le Front National de l'époque était en tête pendant toute la campagne des élections européennes. D'ailleurs, personne ne croyait qu'ils arriveraient en tête, c'est ce qui s'est passé. En 2009, dans le contexte de présidence française et de bénéfices pour Nicolas Sarkozy, l'UMP et le Nouveau Centre étaient systématiquement en tête. Là, on est vraiment sur quelque chose d'absolument serré et ténu.
Et puis les Français ont le choix, ça aussi c'est du jamais vu. Hein. 34 listes finalement.
Du jamais vu, non. Il y a toujours un éparpillement très fort aux élections européennes. Il y avait par exemple en 2014, mais c'était des listes par région. Par exemple, 31 listes en Ile-de-France, 28 dans la grande région Est. C'est un vote de marque partisane, mais ce qui est peut-être un petit peu dommage, c'est que l'éparpillement et donc une offre électorale extrêmement diverse, composite, parfois même folklorique, n'a pas un impact fondamental sur la participation. Le levier de la participation, c'est faire comprendre aux Français ou qu'ils comprennent eux-mêmes que voter aux élections européennes peut changer leur vie. Au contraire, on a une logique que j'appelle de vanité du vote. C'est vain. À quoi bon voter pour cette Europe si lointaine ?
Ce qui explique des projections d'abstention
qui seraient au moins égales, voire un peu supérieures à ce qu'on avait mesuré en 2014.
6 Français sur 10.
Voilà, c'est pas ça. C'était 56%.
Alors, quand vous vous rappelez justement ce qui s'est passé lors des précédents scrutins, Frédéric Dabi, pensez-vous que la campagne officielle qui commence donc dans quelques heures va réveiller des électeurs peu mobilisés?
Alors, il y a pas, on peut pas le dire de manière péremptoire, mais la campagne est courte, hein, c'était le cas également dans les élections européennes précédentes, mais l'enjeu de ces 15 jours, c'est créer de la mobilisation, créer un différentiel de participation, par exemple, entre l'électorat de droite qui voterait pour François-Xavier Bellamy et qui quitterait La République En Marche, hein, c'est ce qui explique le score en demi-teinte pour l'instant des Républicains, supérieur au sondage du début de l'année où ils étaient à 10, mais inférieur au score de l'UMP en 2014 qui a fait 20,7%, et ces 15 derniers jours peut faire créer une surprise, peut voir émerger une force. On se souvient en 2009, la percée très forte d'Europe Écologie Les Verts. Il y a ce qu'on appelle de l'hésitation, de la volatilité très forte à gauche, qu'on a une offre extrêmement éparpillée. On peut très bien imaginer que la France Insoumise, ou Europe Écologie Les Verts, ou Place Publique, voire le Parti Communiste Français, puisse être une sorte de réceptacle et emporter la mise, en tout cas connaître une dynamique. Il se peut aussi, Philippe, qu'il ne se passe rien. C'est quand même une élection pour l'instant très très atone s'agissant de la campagne.
À vous parler de la gauche, justement, j'allais vous poser la question. Les projections faites par certains sites à partir d'agrégats de sondages dans divers pays donnent seulement 6% environ des sièges à la gauche radicale. Moins radicale, les socialistes, qui pourraient en France ne pas avoir d'élus. Est-ce que ça veut dire que les idées de gauche n'intéressent plus personne?
Non, je dirais qu'il y a un problème d'offre électorale, hein. Comme chaque année pour l'humanité, nous travaillons sur l'identité de gauche, il y a 45-46% de Français, un score important, qui se positionne sur un axe gauche-droite, très à gauche, au centre-gauche. Le problème, c'est un problème d'offre électorale. Quand on fait l'addition des forces de gauche dont je parlais, plus génération de Benoît Hamon, on est sur 27-29%. C'est tout simplement le total le plus bas dans une campagne électorale de la gauche sous la Ve République. Il y a un problème d'offre et il y a une difficulté pour la gauche, qu'elle soit socialiste, même si le PS est autour de 6%, ou pour la France insoumise, de surmonter l'échec de l'élection présidentielle.
Mais est-ce que c'est pas paradoxal au moment où les Gilets jaunes ont exprimé une exaspération du peuple qui est généralement portée par la gauche?
Oui, alors les Gilets jaunes ont voulu montrer qu'ils ne voulaient pas appartenir à une formation partisane. C'est vrai qu'il y a des enjeux qui pourraient faire progresser la gauche, la crispation sur le pouvoir d'achat, la crainte du déclassement, mais pour l'instant l'offre électorale de gauche n'apparaît pas efficiente pour beaucoup de Français. Depuis que nous avons commencé notre rolling IFOP fiduciale, à aucune journée nous avons eu une force de gauche atteignant ou dépassant 10%.
Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI.
Philippe Le Caplin.
Hier, Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise tenait une réunion électorale à Marseille. Il a parlé de l'Europe, bien sûr, mais également des Gilets jaunes. À bientôt 6 mois de mobilisation, le mouvement de contestation n'a pas réussi à faire démentir l'essoufflement. Ce 26e samedi de manifestation n'a réuni environ que 19 000 personnes selon le gouvernement, 40 000 selon les Gilets jaunes. Et il y a eu des échauffourées à Nantes et à Lyon, Romain Ouzouli.
Et cela pose cette question, est-ce que c'est la fin du mouvement? Question qui a été posée ce dimanche à Marine Le Pen.
Je ne le crois pas, je crois que la colère est toujours là, je crois que le sentiment d'injustice est toujours là, et que le président de la République a refusé en réalité véritablement de répondre à ces revendications. Quelques gilets jaunes, en réalité, attendent l'acte 26 mai. Non pas l'acte 26, mais l'acte 26 mai, c'est-à-dire la capacité dans les urnes d'exprimer leur désaccord avec la politique menée par Emmanuel Macron. Et ils ont raison de le faire, parce que je rappelle que l'élection européenne est la dernière élection nationale avant les présidentielles.
Et Marine Le Pen de rappeler également son credo, hein, les élections européennes sont un référendum, selon elle, pour ou contre Emmanuel Macron. Alors sur cette question des gilets jaunes, Nathalie Loiseau n'est pas de son avis, même si elle refuse de sonner la fin du mouvement, elle le dit implicitement.
Moi, ce que je souhaite, c'est que le pays puisse sortir de cette phase de violence, de cette phase de désordre, ce qui semble être le cas depuis à peu près une semaine. Je crois que les Français sont soulagés parce qu'on a besoin d'aller de l'avant et pas de tourner en rond, même sur un rond-point.
Voilà, Nathalie Loiseau, tête de liste La République En Marche aux élections européennes.
Frédéric Dabi, le président de la République, en a-t-il fini avec le sparadrap qui lui colle au doigt depuis quasiment une demi-année et qui représente finalement la pire crise depuis son arrivée à l'Élysée, hein.
Alors, difficile de répondre de manière catégorique, mais c'est vrai que l'essoufflement du mouvement quantitatif est lié à un débouché électoral prochain, à savoir le 26 mai. De ce point de vue-là, le constat de Marine Le Pen est plutôt juste sur le mode de beaucoup de personnes faisant part d'un mécontentement, craignant le déclassement, très crispées sur le pouvoir d'achat, ont le choix entre toutes les listes, mais certaines pourront choisir des listes gilets jaunes entre guillemets pures, il y en a deux, et puis des listes qui émanent de forces politiques qui ont soutenu les gilets jaunes, le Rassemblement national, la France insoumise, les Patriotes ou Debout la France. Maintenant, là où il faut être extrêmement prudent pour signer la fin définitive de ce mouvement, c'est que d'une part le soutien des Français reste non négligeable, entre soutien et sympathie on est sur 45-46%. Pour un mouvement si long, c'est absolument du jamais vu. Et puis, les ferments de la mobilisation des ronds-points du mois de novembre sont toujours, cette colère est toujours assez forte chez une partie des Français.
Plus largement, les thématiques dans les pays de l'Ouest de l'Europe se concentrent sur quel sujet, justement ?
On est clairement sur des enjeux environnementaux qui parfois dépassent ou sont quasi équivalents aux enjeux économiques et sociaux. Là, c'est vrai, hein, Monsieur Jadot le disait, on est à l'aube d'une révolution dans le discours et les perceptions des Français. Traditionnellement, c'est les enjeux socio-économiques qui sont massifs, les fins de mois qui sont plus importantes que la fin du monde. C'est toujours un petit peu vrai, mais de plus en plus, la prise de conscience sur les questions de dérèglement climatique, l'idée que cet enjeu est un bloc, fait sens beaucoup à l'ouest de l'Europe, un peu moins à l'est, où on est plus sur des questions économiques et sociales. Et bien sûr, la question migratoire est présente, ça et là, dans tous les pays européens.
Autre chose, cette semaine, il y a eu la validation par le Conseil constitutionnel de la démarche parlementaire visant à organiser un référendum sur la privatisation du groupe qui gère les 3 aéroports de Paris, ADP, c'est-à-dire Roissy, Orly et Le Bourget, RIP institutionnel et non RIC des Gilets jaunes, mais référendum quand même, ce qui est nouveau en France avec ce type de procédé.
Oui, ce type de procédé, c'est complètement nouveau. Quand on interroge les Français sur la question de la privatisation d'ADP, c'est un niet extrêmement massif, 3/4 de réponses. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que sur cette question, on en parlait tout à l'heure sur l'armée et la police, le clivage gauche-droite traditionnel, la droite favorable à des privatisations et la gauche héritée de François Mitterrand, de la période 80, favorable à des nationalisations ou à un nini, ce clivage s'est complètement effondré. Clairement, il y a un attachement à garder dans le giron de l'État ADP.
Merci pour ces commentaires et ces analyses. Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. La politique encore sur RFI, ce sera demain matin. François Asselineau, président de l'UPR, ancien candidat à l'élection présidentielle en 2017 et qui emmène la liste Ensemble pour le Frexit aux européennes, qui sera l'invité de la rédaction.